La CAB, la comète à la banane, l'émission cabossée qui soigne les cœurs, les corps et les esprits. Sur www.libradio.org, la radio hospitalière.
Manamana.
Nous voilà de retour pour notre direct du samedi jusqu'à 17h30, exceptionnellement aujourd'hui, une demi-heure de rab parce que nous avons pléthore d'invités et nous en sommes bien contents. Alors nous allons parler maintenant avec Martine Corba. Bienvenue à toi. Nous sommes ravis. Je t'en prie, nous sommes ravis de te recevoir et tu es là parce que nous allons parler de cette pièce qui revient sur l'image, la figure du féminisme radical et flamboyant et pas que, Frida Kahlo. Pour reprendre le titre du synopsis, c'est « Toutes les femmes en une », une pièce qui lui rend hommage au Galpon à Genève. On en parle donc avec toi Martine, qui est la metteuse en scène de ce spectacle. Alors les dates du spectacle déjà, donc ce sera du 10 au 22 avril au Galpon, le théâtre à Genève qui se situe rue des Péniches numéro 3, si je ne me trompe pas.
Alors, rue des Péniches numéro 2.
Rue des Péniches numéro
2. Au pied du bois de la Bâtie.
Voilà, c'est le Galpon et puis on y va notamment avec le tram 14. Alors, c'est une création théâtrale de l'Hydre Folle. Alors, pour commencer, si tu es d'accord, on va faire deux petites parties. Une partie qui va parler de l'Hydre Folle, de cette compagnie que tu as créée. Voilà, comment est-ce que ça t'est venu, pourquoi ce nom-là, etc. Et puis très rapidement, on entrera sur l'image spécifique, parce que c'est une image particulièrement singulière. Frida Kahlo, c'est une personne dont on peut dire qu'elle a traversé les âges avec ses peintures, mais qu'elle a eu une vie quand même pour le moins compliquée, un engagement incroyable, mais également beaucoup de douleur dans sa vie, puisqu'on sait qu'elle était affligée à partir de 6 ans, si je ne me trompe pas, de la poliomyélite. Donc déjà, elle avait ce problème-là et qu'elle a évidemment, notamment un film revient là-dessus, qui s'appelle Frida. Mais voilà, elle a traversé un énorme accident où elle était dans le bus et puis voilà, elle a été éventrée par une barre de fer, donc des opérations successives. Enfin,
tu connais toute l'histoire, dis donc.
C'est une image. Non, pour nous, c'est une image importante, tu vois, de la lutte. Jusqu'au boutiste de ces personnes-là. Il faut savoir qu'elle a été également membre du Parti communiste mexicain et que d'ailleurs elle-même a changé sa date de naissance pour se caler
La révolution
mexicaine.
1910.
C'est quand même la classe, je trouve, de se dire voilà, moi j'ai envie d'être née à ce moment-là et tiens, ça tombe sur le même jour que. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, alors, mais allons dans l'ordre et si tu le voulais bien, parlons tout d'abord de l'Hydre Folle. Pourquoi ce nom et d'où c'est venu ? D'où ça vient ?
Alors, donc, juste une toute petite précision par rapport à ce que tu as dit par rapport à la mise en scène, parce que je travaille toujours en duo, étant sur scène également, et c'est Yvan Ries qui est mon complice, mon acolyte artistique, bienveillant, et qui m'accompagne sur ce projet pour la troisième fois. L'Hydre Folle, effectivement, c'est le nom de ma compagnie à Genève. J'avais envie de mettre sur pied des sujets qui me tiennent très à cœur. Et je trouvais que l'Hydre correspondait très bien à ce que j'allais mettre en place avec cette compagnie ici. C'est-à-dire que toute la compagnie se base sur le travail de la métamorphose, qu'elle soit physique, psychique et directement au corps. Tout ce qui a trait au corps, à la transformation du corps. Le dernier spectacle était d'ailleurs sur l'intersexualité il y a une année. Donc on a travaillé sur cette question-là, ce double. Et Frida Kahlo était évidemment, j'en parlerai, une image corporelle qui correspondait totalement à l'hydre. L'hydre parce que c'est une figure mythologique. Où les têtes de dragons et de chiens se mélangent de différents animaux qui composent l'hydre, voilà, m'apparaissait évident par rapport à ce que je mets en place esthétiquement et artistiquement avec cette compagnie. Notamment, les têtes étaient, explosées et renaissaient après chaque explosion. Donc, une espèce de continuité comme ça du membre et du corps qui continuait à se reformer, régénérer, voilà.
Ça, c'est quelque chose. C'est une des centralités de l'hydre folle. Ouais. Ces sujets, disons, politiques, certainement, et également
aussi, bien sûr, et par rapport au corps, et qui ouvre évidemment sur la question après du féminisme, de la femme, de la des femmes que nous sommes. Et voilà, et alors, c'est la base.
Du coup, c'était fatal de rencontrer la figure de Frida Kahlo à un moment donné.
Elle était dans ma valise depuis un certain temps.
Mais voilà, justement, alors c'est pour ça que je te pose cette question, c'est parce que s'attaquer à une telle personnalité, c'est pas rien quand même. Ça nécessite, j'imagine, beaucoup d'énergie, parce que connaissant, enfin en tout cas devinant la teneur de cet esprit flamboyant de Frida Kahlo, qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, tiens, on va s'attaquer à un sujet qui avait une personnalité extrêmement intense, est-ce que ça va pas être trop dur, est-ce qu'on va y répondre comme est-ce que le résultat sera à la hauteur de nos attentes, est-ce que ces doutes là vous ont habité lors de la gestation de ce spectacle?
Bien sûr, mais la gestation est tellement longue et le chemin est est robuste et on a le nez dans le guidon, donc on a pas intérêt d'avoir trop de doutes qui nous terrassent. Donc non, du moment que j'ai commencé à travailler sur Frida pour en faire un spectacle, voilà, il fallait avancer et tout s'est mis en place petit à petit. Alors après, le résultat, on verra, puisque ça démarre mardi. Et on verra bien comment les fans de Frida Kahlo ou toutes les attentes qu'on a autour d'elle, ouais, les curieux, vont réagir. Mais si vous voulez voir du Frida, il y en aura.
On se réjouit. Par quoi est-ce qu'on commence lorsqu'on doit justement appréhender une personnalité tellement riche, tellement variée, comme celle de Frida Kahlo? Est-ce qu'on commence par étudier sa vie, on lit une biographie
Pas du tout. Non. Alors pour moi, ça a été très clair. Bon, le chemin, pour le faire court, c'est ça commence par ses tableaux, sans connaître sa vie. Petite, déjà, il y avait un livre chez mon grand-père avec deux toiles, un livre d'histoire de l'art. Et déjà, enfant, moi-même qui ai des enfants, bon, elles connaissent tout sur sa vie parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais elles sont, les enfants sont très surpris. On ne passe pas à côté de l'aspect esthétique. Donc, ça part de là. Et après, pour mon histoire, ça continue... au lycée, ça continue à l'université parce que j'ai fait de l'histoire de l'art. Et puis du coup, après dans le théâtre, pour moi, j'aurais pu choisir Camille Claudel, j'aurais pu choisir Patti Smith ou je ne sais qui. Mais non, j'ai choisi Frida Kahlo parce que, pour des raisons esthétiques. La vie, bien sûr, indéniablement, mais pour des raisons esthétiques, parce qu'il y avait tout dans son œuvre. Visuellement, au niveau de l'accessoire, des représentations symboliques, il y avait vraiment tout ce que j'ai envie de travailler sur scène.
Frida Kahlo, la flamboyante, la sorcière, la mexicaine, la déesse, la militante, l'épouse passionnée, blessée, la femme, l'artiste, portée par une force vitale, celle de créer. Elle est aujourd'hui un emblème, une fête explosive pour la scène. Ça, c'est sur le site. C'est la présentation que vous faites de cette pièce-là. Frida Kahlo, c'est également l'autodidactie. Elle-même, elle n'a pas suivi d'école.
Elle voulait être médecin. Hein. Voilà. Elle faisait des études de médecine, en fait.
Et elle-même a découvert la peinture au moment où, comment dire, à la mauvaise occasion d'une blessure où elle s'est retrouvée alitée pendant des mois.
C'est ça.
Et c'est là où, ne pouvant plus bouger, eh bien, elle s'est mise à peindre.
Oui.
Et notamment des autoportraits parce que
elle n'avait pas le choix.
Voilà, elle n'avait pas le choix.
Parce que sa mère lui a fait, elle a eu l'heureuse idée, sans cet accident et sans toute la suite, c'est-à-dire la pose du miroir au-dessus de son lit à baldaquin, donc au-dessus de sa tête, elle n'avait pas le choix que de se voir. Donc sa mère lui a posé ce miroir, lui a offert un chevalet spécial et elle s'est mise à dessiner.
Est-ce que ça signifie quelque part qu'on peut dire que la vie est un assemblage, une succession d'accidents?
Alors,
et que finalement, le libre arbitre est certes là, mais que finalement, on est un petit peu traversé par ces accidents.
On est fait de ça.
Ouais.
On est tous et toutes fait de ça. Ça, c'est clair. Et Frida Kahlo en est l'exemple ultime, quoi.
D'accord. Et alors, voilà, on revient maintenant techniquement au spectacle, dans le sens où les représentations commenceront le 10.
Oui.
Et ce sera, alors ça j'ai noté quelque part, ce sera voilà, du 10 au 22 avril au Galpon, en semaine à 20h, sauf le jeudi où ce sera à 19h, et les dimanches où c'est à 18h, et les lundis c'est relâche, c'est ça?
C'est ça.
Et c'est donc au Théâtre du Galpon. Y a-t-il des séances un petit peu spéciales où on pourra peut-être après la pièce rencontrer
Tout à fait.
Ah, alors, dis-nous en plus.
Dans le cadre de ce projet, j'ai mis sur pied, en lien avec Agenda 21, le service Agenda 21 de la ville de Genève, que je remercie chaleureusement, j'ai mis sur pied deux tables rondes les jeudis soirs. C'est quasi complet, hein, donc, mais il y a toujours des places qui restent. Vous pouvez venir ou vous présenter à la caisse, mais ce sont deux soirées déjà bien pleines. Deux soirées avec des intervenantes, l'une sur la représentation des femmes dans les milieux artistiques et les questions d'égalité, et la deuxième soirée sera plus sur, donc, toujours en lien avec le spectacle puisque les tables rondes sont à la suite du spectacle. La deuxième soirée, le 19 avril, sera plutôt sur justement la question du corps, du rapport au bouleversement des normes aujourd'hui au 21e siècle. Toujours en lien avec Frida et ce qu'elle a bousculé au niveau vestimentaire, au niveau amoureux, au niveau politique, au niveau artistique et pictural.
Oui, parce
voilà.
Que voilà.
Deux grandes soirées avec des intervenantes, pas des moindres, je dois dire. Je ne sais pas si je dois toutes les citer, tout est sur le site, bien
tout
sûr,
est sur le
Galpon,
site, façon,
ou sur mon
voilà.
site. Mais voilà.
Alors, en tout cas, le site du Galpon, là, on y trouve effectivement l'ensemble
toutes les
des informations.
Informations
et,
oui.
Et ça, c'est très bien. L'importance de la musique également est prégnante. Hein. Il
oui.
y aura sur scène
oui,
deux,
oui.
deux musiciens.
Pierre Homer et Julien Israélian, qui sont aussi mes complices artistiques. Oui.
Ça, c'est parce que dans la vie de Frida Kahlo, la musique a également une grande importance.
La musique, alors certainement de par le Mexique, hein, la musique folklorique, la musique mexicaine, il y a toute une culture très très forte musicale. Nous, on s'est attaché, j'avais pas envie de, on n'est pas mexicain déjà, donc on a été puisé dans cette culture, mais de manière complètement revisitée, contemporaine, évidemment de dire. J'ai pas engagé Pierre Homer et Julien Israélian pour qu'ils jouent des mariachis. Ce n'est pas vraiment leur tasse de thé
ouais.
et leur répertoire. Mais il y a quelques touches quand même qui nous ramènent à ça de manière humoristique.
S'il fallait en quelques mots décrire tout cet univers, tous ces univers qu'habite Frida Kahlo, quels seraient-ils ces mots-là à l'aune de cette petite citation? Parce que vous terminez sur une citation de Frida Kahlo qui est la suivante: pourquoi voudrais-je des pieds puisque j'ai des ailes pour voler? Comment est-ce que tu définis?
Très symbolique, parce que les ailes, ce sont bien sûr des ailes souvent représentées par des papillons dans ces tableaux, qui sont des représentations symboliques de la mort, en fait, du passage de la vie à l'au-delà. Qui me viennent à l'esprit par rapport à son œuvre, c'est sûr que c'est... Et c'est ce qu'on a travaillé avec Yangeli Kolbrenner, qui est la plasticienne du projet, qui sera sur scène avec moi, puisqu'on représente les deux Frida Kahlo, les deux tirées du tableau de Frida Kahlo, les deux Frida. Mmh. Donc elle ne parle pas, mais elle est elle-même plasticienne, et c'est elle qui a construit tous les éléments plastiques du projet, et qui, au fur et à mesure de l'avancée du spectacle, met en scène et construit les tableaux de Frida Kahlo. Donc évidemment que des choses comme, je pense beaucoup au tableau qu'on représente, l'hôpital Henry Ford, où Frida est nue et rattachée à des fils rouges reliés à des objets tels que un fœtus, un escargot, un orchidée, un bassin de femme, du sang bien sûr. Donc tous ces mots-là et cet imaginaire-là font partie, pour moi, du projet et de ce qui m'anime. Mmh. Oui.
On sait qu'elle a par ailleurs eu des rencontres assez fantastiques, en tout cas du point de vue historique. Hein,
alors ça, oui.
Par ailleurs Trotsky, par ailleurs André Breton.
Picasso donc, Max Ernst.
Voilà, une série de personnes qui, voilà. On sait qu'en tout cas, par rapport au surréalisme, elle avait, en tout cas, vers la fin de sa vie, en tout cas, elles sont détachées, en tout cas, et elle parlait d'une forme d'intelligentsia, ou en tout cas, de parisienne qu'elle honnissait pour le moins.
Oui, c'est sûr.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle a jamais perdu un sens des réalités extrêmement proche de tout un chacun, de la réalité de tous les jours, également aussi par les douleurs qu'elle a traversées, par les luttes qu'elle a menées, parce qu'on peut dire qu'effectivement, du point de vue féministe, le Mexique des années 20, des années 30, ça ne devait pas être évident, et qu'en plus de ça, elle était affligée par, effectivement, comme on l'a dit, cette maladie qui l'a tenue pendant tout au long de sa vie, auxquels se sont ajoutés différentes et plusieurs épisodes extrêmement funestes qui l'ont vraiment conduite à, dont, à... Alors, on ne sait pas, mais c'est peut-être à suicider même. Parce que la fin de sa vie est un petit peu trouble, s'il me semble. On ne sait pas si, effectivement, elle a absorbé plus de médicaments.
Tout
ou quoi.
À fait, oui. Elle buvait voilà. certainement ouais. beaucoup. Et les médicaments et la fatigue corporelle et la douleur, oui. Ouais, ouais.
Mais alors, voilà, justement, selon toi, le rapport que Frida Kahlo avait avec la douleur, oui. avec la lutte, avec toutes ces choses-là, ça, c'est quelque chose peut-être qui, justement, lui donnait à être proche des gens tout le temps, à être vraiment sur des...
Bon, c'est une époque assez... je me dis, qu'est-ce que ça devait être incroyable dans les années 20 et 30, en tant que petite femme mexicaine, peintre, de devoir traverser l'océan, d'arriver à Paris au milieu de toute la clique surréaliste et d'autres. Vraiment, c'est de l'ordre, c'est incroyable. C'est quand même fou les rencontres qu'elle a faites. Et d'arriver avec son folklore, ses vêtements de Tijuana, comme on dit, et son univers pictural. Donc, c'est vrai qu'on l'a souvent relayé au surréalisme. Voilà, on ne va pas faire d'analyse là-dessus. Mais par contre, elle ne se revendiquait pas du tout surréaliste. On en parle dans le spectacle, puisqu'André Breton est représenté aussi d'une manière assez comique par Diego Todeschini, le comédien. Non, je ne suis pas surréaliste, monsieur Breton. Tout ça, c'est du surfait. Je peux vous dire une chose, je peins ma propre réalité. Voilà, ce sont ces mots. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on est bien loin d'une espèce de branlette intellectuelle, si je puis me permettre. C'est vraiment tiré tout simplement de sa réalité à elle physique. Du moment, dans ses représentations alitées et de son univers qui est un univers aussi esthétique mexicain et des traditions puisqu'elle allait vraiment, vraiment puiser dans tout cet univers-là de traditions symboliques mexicaines. Mmh. Oui.
Bah, très bien, merci beaucoup Martine Corbin. En tout cas, on arrive doucement à la fin de cet entretien. Si je me
on n'a pas parlé de Diego Rivera, mais vous verrez dans le spectacle.
Effectivement, alors on va en dire quelques mots parce que justement, j'allais dire qu'on arrivait doucement au terme. C'est pour prévenir la personne que j'ai en face que non. Voilà, on est en phase d'atterrissage, mais effectivement, il y a encore deux, trois petits points que l'on peut aborder. Mais je voulais me tourner vers les gens qui sont parmi nous. Si des questions émergeraient, n'hésitez pas à prendre un micro et à poser votre question. Diego Rivera, effectivement, monument de la culture populaire mexicaine, puisqu'il est mondialement connu pour les murales, hein, pour les peintures sur le mur, qui était son conjoint. Mmh. On va le rappeler qu'il avait quand même 21 ans de plus qu'elle. Et c'est une histoire d'amour passionnelle pour le moins, puisqu'ils se sont mariés, divorcés, remariés. Enfin, il y a toute une
complètement,
histoire.
Complètement, oui, ils se sont mariés deux fois. Oui, oui.
Alors, veux-tu dire deux mots
pour
de
moi,
Diego
Rivera ? C'est une grande énigme. Ça restera une question pour le monde entier. Mais en même temps, la passion amoureuse, la passion artistique, sans Diego Rivera, il n'y aurait pas de Frida Kahlo. Mais Diego Rivera est complètement méconnu aujourd'hui. Personne ne le connaît. Il faut bien se. Bien sûr que c'est un peintre illustre et splendide ce qu'il a fait. C'est magistral. Et son engagement politique sur ses fresques. Mais il est complètement méconnu parce que Frida, cette petite Frida de 50 kilos, a pris le dessus avec ses toiles. Mais une histoire d'amour qui pose vraiment des questions par rapport à la sexualité. Au mariage, à l'amour libre et à ce rapport passionnel jusqu'au bout.
Et également au genre, à l'autodétermination, puisque effectivement Frida Kahlo, peut-on dire, était bisexuelle.
Oui. Après, elle l'a complètement revendiqué.
Voilà.
Oui.
Et donc là également, dans une époque où il était peut-être encore plus difficile qu'aujourd'hui d'en faire...
Oui, bien sûr, encore une question des normes qui ne devait pas être facile à mener à cette époque-là.
Tout ça pour dire qu'effectivement, ce sont, quand on dit toutes les femmes en une, c'est une manière de dire qu'il y a eu tellement de luttes différentes qui ont habité en même temps, simultanément, Frida Kahlo, que c'en est impressionnant. Voilà, alors en tout cas, cette rencontre, eh bien, nous allons pouvoir, nous, au public, la faire au Théâtre du Galpon à partir du 10 avril.
Il y a une tournée. Hein,
voilà, alors justement, alors, qu'est-ce qui se passe après le Galpon ?
Alors après, on tourne en Suisse romande, on va le 27 avril au CCRD de Delémont, 5 mai au Soleil à Seignelay-Légier, le 15 mai à Les Chandolles, le 17 mai au CPO à Lausanne, avec une supplémentaire le 18 mai officialisée. Et puis on reprend l'année prochaine, en mars 2019, on repart en tournée romande. Et
ah, voilà. Très bien, donc on aura de toute façon l'occasion, parce qu'il me semble que les places vont valoir cher très rapidement pour ce spectacle. Je ne sais pas si tu as déjà des retours au Galpon, mais j'imagine que...
Oui, c'est réservé, parce voilà, qu'il faut réserver. Y a des soirées déjà complètes.
Très bien. Le site internet de l'Hydre Folle, tu veux bien nous en donner l'adresse ?
Alors, c'est simplement www.martincorba.ch Hydre Folle, et vous avez toutes les informations.
Ouais, très bien. Dernière question. Qu'attendez-vous ? Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé, mis à la place des publics que vous allez rencontrer ? Et qu'attendez-vous de cette rencontre-là à l'aune du personnage Frida Kahlo ? Est-ce que vous vous dites, voilà, là, on va la mettre en lumière de cette manière-là, parce qu'on sait que, d'une certaine manière, ça va faire réagir. On sait que, dans la salle, il y aura clairement des gens qui connaissent parfaitement le sujet, la personne Frida Kahlo, parce que, voilà, et d'autres qui vont venir par curiosité. Voilà, tous ces questionnements-là, est-ce qu'on les formule lorsqu'on prépare le spectacle ?
Oui, bien sûr, ça nous traverse l'esprit. Après, je pense que effectivement, celles et ceux qui ne connaissent pas Frida Kahlo vont en apprendre beaucoup sur son œuvre et son existence, ses questionnements, ses rencontres. Toutes celles et ceux qui la connaissent, je pense, trouveront, pour moi, c'était comment transcender son œuvre sur la scène. Donc voilà, maintenant le travail esthétique a été fait, on verra comment ça réagit, mais pour moi c'était justement cette revisite de ces tableaux et comment les transcender de manière poétique sur scène, et on va voir après on en reparlera.
Ok. Frida Kahlo, autoportrait d'une femme, une création théâtrale de la compagnie L'Hydre Folle. On pourrait dire, pour en terminer, que c'est une œuvre et une vie qui se confondent concernant Frida Kahlo. Et c'est tout ça que vous allez livrer du 10 au 22 avril au Galpon.
C'est ça.
Martine Corba, merci beaucoup.
Merci
et bon
à vous.
Courage pour les pièces de théâtre.
Oui, merci. Merci à vous tous.
Voilà, nous, on va faire une petite pause musicale. Et juste derrière, eh bien, nous parlerons anarchisme et religion à l'aune d'un livre rédigé par Alexandre Christoyanopoulos et Lara Apps, paru aux ateliers de création libertaire, c'est à Lyon. Alexandre devrait être normalement avec nous par Framatalk. Donc, juste après la petite pause musicale, on en revient et on parlera justement de l'anarchisme et des religions. Qu'y a-t-il là derrière ? Est-ce totalement un oxymore ? Y a-t-il là-dedans des points de contact possibles ? On va le découvrir dans quelques minutes, juste après ça.
Stand up, everybody dancing ! Oh!